Il ne faut pas trop parler du diable. On est forcé d'en parler un petit peu parce qu'il est notre ennemi et qu'il y a un minimum de choses à savoir, mais il ne faut pas trop en parler parce que ça lui fait trop plaisir. Il aime ça, il n'aime que ça. Il est trop content qu'on parle de lui. Il y a des personnes qui aiment ça, qu'on parle beaucoup d'elles, peu importe ce qu'on en dit, mais lui, c'est vraiment de façon absolue. Non, il faut toujours l'évoquer avec prudence. Et surtout, ne jamais discuter avec lui. Le pape François l'a rappelé dans une catéchèse qu'il a donnée le 27 décembre. Je le cite. « Avec le diable, chers frères et sœurs, on ne dialogue pas, jamais. On ne doit jamais discuter. Jésus n'a pas dialogué avec le diable, il l'a chassé. Et quand il a été tenté dans le désert, il a répondu avec les paroles de la Sainte Écriture, avec la parole de Dieu. Ne dialoguez jamais avec lui, car il est plus malin que nous. Il nous le fera payer. » Et quand vient une tentation, ne dialoguez pas. On pourrait même dire, ne cherchez pas, ne cherchons pas à négocier. Les anciens appelaient cela la garde du cœur. C'est une défense indispensable, la garde du cœur. Et quand il disait cela fin décembre, le pape inaugurait une nouvelle série d'enseignements sur le bien et le mal, sur les vices et les vertus. Et la catéchèse suivante nous intéresse, c'était le 3 janvier, parce qu'elle portait sur le combat spirituel, qui est au cœur du carême, où le pape expliquait pourquoi Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Les tentations qu'il a traversées, qu'il a surmontées, c'est la première instruction qu'il donne à ses disciples. Parce que la vie est faite de tentations, de défis, d'épreuves, de carrefours, de visions opposées, de séductions cachées, de voies contradictoires. Et nous devons garder notre cœur, préserver notre vie intérieure pour choisir le bon chemin à la suite du Christ, ce qui nous mène véritablement au bonheur, et une fois qu'on y est engagé, on ne s'arrête pas en route, on ne se détourne pas. Et depuis début janvier, chaque mercredi, c'est les audiences du mercredi, dans ses enseignements, le pape passe en revue tous les dangers qui nécessitent la garde du cœur, en particulier tout ce qu'on appelle traditionnellement les péchés capitaux, tout ce qui constitue le combat spirituel. Et il a commencé le 10 janvier par la gourmandise. Parce que la nourriture, d'abord, c'est le premier lieu de satisfaction. Au moins de notre corps, un lieu de plaisir, de satisfaction. C'est le premier lieu d'éducation pour les petits-enfants. C'est le premier lieu d'appréhension, d'inquiétude, voire d'angoisse pour tous ceux qui ne savent pas, qui n'ont rien à manger. La part de la population mondiale qui ne sait pas si elle va manger aujourd'hui et demain. C'est le premier lieu de tentation pour nous qui avons cette chance d'avoir la nourriture à profusion, et c'est le premier lieu de charité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est ce qui nous sépare des bêtes sauvages, parmi lesquelles Jésus était au désert, et l'Évangile dit, et les anges le servaient. Nous l'avons entendu au mercredi décembre, le jeûne. Le jeûne est l'une des trois armes que le Christ nous donne pour le combat spirituel. Le jeûne, l'aumône et la prière. Et pourtant, nous n'aimons pas beaucoup le jeûne. Honnêtement, il faut le constater, aujourd'hui, à notre époque, nous ne le pratiquons pas beaucoup dans l'Église. Alors que, quand on a faim, quand on a un peu faim, on prie. On prie. Juste avant les vacances, ici même, j'étais avec les enfants du catéchisme, et je leur ai demandé... Qui d'entre vous est gourmand? Je ne m'y attendais pas, ils ont tous levé le doigt. Je me suis dit, oui, oui, oui. Il va falloir que je marche sur des œufs, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut quand même qu'on corrige la compréhension qu'on a du terme. Manifestement, pour eux, ce n'était pas du tout un péché. Mais je leur ai dit, gourmand, ça ne veut pas dire aimer les bonnes choses. c'est gourmand, c'est une pente glissante. C'est une pente glissante où le fait d'aimer les bonnes choses n'est pas mauvais, mais quand on risque d'y attacher trop d'importance, trop de temps, qu'on risque de le faire passer avant toute chose, avant les personnes et en fin de compte avant Dieu. La religion chrétienne est la seule qui n'est pas d'interdit alimentaire. Et il faut se rendre compte de la nouveauté, de la rupture radicale, de la stupeur même des disciples de Jésus, quand Jésus a pris cette décision, on le lit dans l'évangile de Saint-Marc, de déclarer purs tous les aliments. Tous les aliments. Pour ses contemporains, pour tous les juifs qui l'entouraient, c'était stupéfiant. Pourquoi ? Il était affligé de voir la facilité avec laquelle tant de croyants, à son époque mais encore aujourd'hui, mettent leur fierté dans des interdits. Mettent leur fierté principale dans la loi. Et surtout dans des prescriptions, dans des interdits. Notre fierté, c'est la croix du Christ, dit Saint Paul. C'est-à-dire, c'est l'amour de Dieu. Ça, nous pouvons en être fiers, de l'amour qu'il a pour nous, qu'il nous aime. Mais pas nous perdre dans ce qui finit par être du secondaire. Blaise Pascal le dira de façon très forte dans une de ses pensées. Il dit, il vaut mieux ne pas jeûner et en être humilié. C'est pas culpabilisé, hein. En être humilié, parce que on n'en est pas capable, disait-il, que jeûner et en être trop satisfait, complaisant, disait-il. Le seul interdit alimentaire pour le chrétien, c'est l'excès, l'orgueil et la démesure, l'inconduite, que traduisaient ces termes de gloutonnerie, de goinfrerie. L'Église nous prescrit, nous demande seulement ensemble de vivre 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et elle nous demande de faire, on disait de faire maigre, de faire attention tous les vendredis, évidemment en carême, mais tous les vendredis de l'année, pour méditer et contempler la passion du Seigneur. Le jeûne, au sens chrétien, ce n'est pas forcément une privation totale, mais une privation suffisante pour éprouver la faim. Par obéissance, par solidarité avec ceux qui n'ont rien à manger, et par fidélité, en souvenir de la libération de l'esclavage, ce que dit le texte du Deutéronome, « Souviens-toi du long chemin que tu as fait pendant 40 ans au désert, le Seigneur voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu lui rester fidèle ? Oui ou non ?» 40 ans, hein, pas 40 jours. Il t'a fait sentir la faim pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort, de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et c'est quand on a faim, c'est quand on est dans une situation de faiblesse, c'est toujours à ce moment-là que survient le tentateur, qu'arrive la tentation, toujours. Le diable n'est pas une créature imaginaire. C'est pas un mythe. Le diable, c'est une créature qui cherche à envahir notre imaginaire, qui cherche à s'y introduire et à le polluer. Qu'est-ce que tu pourrais manger de bon ? Oh, pourquoi tu prendrais pas un petit écart ? C'est pour le dire en termes modernes, c'est très exactement le mail dont il ne faut pas ouvrir la pièce jointe. La gourmandise n'est pas un péché de bouche, on appelait comme ça avant les paroles malveillantes. C'est un péché fondamentalement d'esprit, d'imaginaire, beaucoup plus que de ventre. C'est la priorité donnée à son désir sur l'amour. Au ventre, sur le cœur, les enfants du catéchisme comprennent très bien, le ventre ou le cœur. Il y a une de mes amies qui m'a dit, lorsque je suis seul chez moi, et que, la tentation vient, que l'envie de grignoter me prend. Je téléphone à une amie et le partage me nourrit. C'est beau ça, le partage me nourrit. Saint François de Sales, dans une méditation sur le mystère de Noël, disait « Regardez l'enfant Jésus dans la crèche. Il subit la situation où il est, il reçoit tous les ravages du temps, le froid, tout ce que le Père du ciel permet qu'il lui arrive. Il ne refuse pas les petites consolations que sa mère lui donne et il n'est pas écrit qu'il tende jamais les mains pour avoir le sein de sa mère. » J'ai d'ailleurs cette conviction que l'enfant Jésus, il ne criait pas la nuit. Et on ne comprend le péché originel qu'à partir de là. Et le baptême des petits-enfants, en fonction de ça, sauf que le baptême des petits-enfants ne les empêche pas de continuer à crier la nuit. C'est une autre histoire. Mais, poursuit saint François de Sales, de la même façon, nous ne devons rien désirer ni refuser, mais supporter tout ce que Dieu permet que nous vivions, le froid, les ravages du temps. Et saint François de Sales n'a cessé d'insister sur ce que saint Ignace, un siècle plus tôt, appelait une sainte indifférence. On pourrait dire ça, une maîtrise de soi, une sainte indifférence, c'est-à-dire quand même une certaine hauteur, un certain recul par rapport à tout ce qui peut nous éprouver. Une liberté à acquérir à l'égard de nos désirs, c'est ça l'enjeu. Et saint François de Sales, dans une de ses dernières rencontres avec ses visitandines, disait qu'il leur avait tout résumé dans ces deux mots, ne rien refuser, ne rien désirer. C'était une phrase assez célèbre qui a été reprise par la tradition, ne rien demander, ne rien refuser. Et chaque fois que je l'entends, ça me fait rire, parce qu'elle a été détournée, cette formule, pour se moquer des hypocrites. Les hypocrites, les pieux hypocrites, eux, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Ne rien se demander, ne rien se refuser. C'est une définition de la gourmandise. C'est même la meilleure définition que je connaisse de la gourmandise. Ne pas se demander si c'est vraiment utile, si c'est bénéfique, si c'est profitable, et ne pas se refuser ce qui est si tentant. C'est le chemin du carême. De qui est-ce que nous allons être à l'écoute? Des enseignements du Christ, des appels de nos frères, ou des tentations les plus alimentaires? Saint Paul, dans une formule forte, disait... Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre, il disait cela, de ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qu'aux réalités terrestres. Mais nous, poursuivait-il, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.